avec le mois Carrefour, j'optimise.
Il est euphorique, Tristan.
Bah, le mois Carrefour et toutes ses super promos sur des produits de marque, ça lui donne le sourire. Par exemple, jusqu'à lundi, le pack téléphone Yazandia 5G et sa montre connectée est à 149€.
Seulement 149€ ? Le mois Carrefour m'appelle. Allô ? Allô ?
Existant noir ou blanc, 2 centimes d'éco-participation. Débit d'absorption spécifique de 0,331 watts par kilo.
Avec le mois Carrefour, j'optimise.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Demain et après-demain, c'est la fête du timbre dans 89 villes de France. Franck Ferrand en a profité pour revenir sur l'histoire de la Poste. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous savez que les progrès des communications à travers la Poste sont un phénomène majeur de l'histoire. Nous avons invité Joëlle Amalfitano de Filaposte pour évoquer avec elle cette grande aventure humaine.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question d'Amandine qui veut en savoir plus sur les origines du carnet de chèques.
Voilà un sujet qui, somme toute, n'est pas étranger à la Poste. Mais avant d'en venir à la banque postale, il y a eu les relais de la poste aux chevaux. C'est ce que je vais commencer par vous raconter.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
J'ai coutume de rappeler que les distances ont été pour nos ancêtres un élément très important. On ne peut pas comprendre l'histoire du 14e, du 15e, du 16e siècle sans prendre ces distances en compte et la difficulté qu'il pouvait y avoir à relier deux points dans l'espace. Vous savez que pendant très longtemps, on circulait en grande partie grâce aux voies d'eau, les fleuves, les rivières étaient essentiellement empruntées pour le transport des marchandises, bien entendu, mais aussi, si je puis dire, pour le transport des nouvelles et de l'information. Et vous savez que dominer, tenir, posséder l'information, c'est ce qui donne le véritable pouvoir. Et on comprend notamment l'importance des pigeonniers dans certaines grandes propriétés médiévales. Alors, sur ces voies d'eau, il y avait de nombreux péages, il y avait toutes sortes de difficultés, qui étaient des difficultés d'ailleurs de navigation, des difficultés techniques, et qui rendaient très difficile ce transport. C'est le principal mode de transport, y compris pour les lettres, y compris pour les plis, devrais-je dire, c'était la marche à pied. Alors on utilisait le cheval, bien entendu, à condition que le cheval puisse circuler sur des voies. Or, pendant très longtemps, ces routes, les routes à travers la France, qui, pour certaines, étaient très anciennes, on parle toujours des voies romaines, mais il faudrait parler des voies encore plus antiques, hein, des voies celtiques, ce réseau de routes qui avait été très mal entretenu était devenu quasiment inutilisable. Au début du XIVe siècle, un réseau de voies est établi à travers le royaume, un réseau qui va se densifier avec le temps, bien entendu. La plupart du temps, ce sont des pistes de terre sans fondation ni revêtement, mais qui sont peu à peu renforcées de cailloux dans certains passages marécageux et qui vont se transformer, évidemment, dès que vient l'hiver, dès que augmentent les précipitations, qui vont se transformer en bourbiers, en fondrières. Voilà un témoignage de Froissart qui date de 1392 et qui raconte que les proches du roi chevauchent, je cite, « assez à part de lui » pour lui faire le moins de poudrière. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, toutes ces routes étaient très difficiles, particulièrement malaisées, comme aurait dit La Fontaine. Là encore, toujours des péages, des systèmes de barrages, de fermetures sur toutes ces routes, où l'on perçoit des droits et des revenus, bien entendu, qui sont souvent des droits seigneuriaux ou ecclésiastiques. Pendant la guerre de Cent Ans, tout ça se dégrade encore. Le roi Charles VI, en 1388, s'en plaint. Plusieurs chemins notables et anciens sont moult empiétés, dommagés et effondrés, dit-il, ou autrement empêchés par ravines d'eau, par grosses pierres, par ronces et autres plusieurs arbres. Ils sont en si mauvais état qu'on y peut aller ne passer sûrement. Donc ce sont vraiment des routes quasiment inutilisables. Il va falloir attendre la fin du XVe siècle pour qu'on remette un peu en état les routes dans le cadre d'un développement nouveau, celui de la poste aux chevaux. Cette poste aux chevaux, elle est essentielle parce qu'elle est à l'origine de ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, la communication. Qu'est-ce que c'est que la poste? Au sens propre, c'est un service de relais qui sont organisés à une distance précise pour louer des chevaux aux coureurs du roi, car au départ, le système de relais ne fonctionne que pour les messagers qui sont dûment patentés par le pouvoir. Il a fallu à peu près 150 ans avant que ce système ne soit vraiment bien organisé. Il va ensuite devenir un système d'une efficacité extraordinaire au XVIIe siècle, encore plus au XVIIIe siècle. Et l'on verra, au moment de l'apparition du chemin de fer, on verra la France entière couverte de ce système de relais qui permettait d'aller relativement vite d'un endroit à un autre. Et alors là, non seulement on transporte des nouvelles, mais on transporte bien entendu beaucoup de marchandises et des voyageurs. On se met, au tournant du XIXe siècle, on se met à beaucoup circuler à l'intérieur du pays. Alors, le relais en tant que tel, cette poste aux chevaux, c'est un roi bien connu qui est à son origine, c'est le roi Louis XI. Le 19 juin 1464, le roi signe l'édit de Luxy près de Doullens. La date a été controversée, hein, pour vous dire, certains historiens estiment que c'est un tout petit peu plus tardif parce qu'on n'a pas retrouvé le texte original de cet édit royal. Voilà ce que dit l'édit. Il établit en toute ville, bourg, bourgades et lieux que besoin sera jugé plus commode, un nombre de chevaux courant de traite en traite, d'établir spécialement sur les grands chemins du royaume, de 4 en 4 lieues, donc c'est-à-dire une quinzaine de kilomètres, personnes féables pour tenir et entretenir 4 ou 5 chevaux de légère taille, bien harnachés et propres à courir le galop. Vous avez bien compris quelle est l'intention du roi, quelle est l'intention du pouvoir royal. C'est de pouvoir, le plus rapidement possible, transmettre des ordres ou recueillir des informations dans tous les coins du royaume, bien entendu. Alors, cette poste, elle va devenir officielle. Il y a une poste d'État qui est créée en 1479, et ça, cette fois, la date est tout à fait certaine, et qui permet donc à un messager, tous les 15 kilomètres, en gros, de changer de cheval pour récupérer une monture fraîche et continuer son galop, aller le plus vite possible vers le seigneur ou vers la municipalité qu'il a pour mission d'atteindre. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, allons, disons dans les années 1500, les routes postales sont constituées. On est à l'ancêtre de ce qu'on va bientôt appeler la poste dans notre acception moderne du terme.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et à l'occasion ce week-end de la grande fête du timbre célébrée dans 89 villes de France, vous nous parlez de l'histoire de la poste aujourd'hui, Franck.
Je vais vous parler de cette date de 1500. C'est vrai que c'est à la fin du 15e et au début du 16e siècle qu'on voit voir se construire les fameux relais de poste. Ce réseau de relais est très lourd à mettre en place, bien entendu. D'abord, il a fallu restaurer ces routes dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elles avaient été tellement endommagées. On a créé des routes privilégiées pour la poste en fonction des grands axes. Là encore, de communication et de pouvoir. Sous l'Ancien Régime, la poste aux chevaux a le privilège de rouler la nuit et d'aller au galop. Attention, je précise ça parce que si vous êtes un simple voyageur, vous n'avez pas le droit de faire aller votre monture au galop. Vous êtes obligé de vous en tenir au trot et vous êtes obligé d'arrêter de circuler à la tombée du jour. Pour deux raisons. D'abord, pour ne pas encombrer les routes et puis surtout, bien entendu, pour des raisons de sécurité, pour éviter le développement du brigandage. La poste aux chevaux, c'est-à-dire la poste royale, elle peut circuler au galop, ça vous l'aurez compris, et peut circuler nuit et jour. Donc vous voyez bien qu'il y a un caractère officiel dans ce premier courrier. Donc on a créé des relais tout le long de ces routes qu'on va appeler peu à peu des routes postales, parce qu'elles sont tout simplement semées de relais, semées de postes. Les postes sont généralement établis au carrefour, pour des raisons de logique, hein, pour des raisons évidentes. On institue des postes, je vous l'ai dit, toutes les 4 lieues. Une lieue, c'est 4 kilomètres, donc en fait, les postes sont tous les 15-16 kilomètres. D'ailleurs, on va se mettre à parler d'une poste. Quand on parle d'une poste, alors ça, c'est un petit peu plus tard, au tournant du XVIIe siècle, une poste, c'est 9 kilomètres, vous voyez. Les distances ont été exprimées en poste, il faut le savoir, en France, jusqu'en 1840. Lorsque vous disiez, ah, j'habite à 10 postes de tel endroit, ça voulait dire, en gros, j'habite à 90 de nos kilomètres. Problème ? La vitesse moyenne des diligences va varier dans le temps, l'état des routes qui s'améliore, l'état des diligences qui s'améliore aussi, tout ça va permettre d'augmenter la vitesse. On va pouvoir peu à peu éloigner légèrement les postes et l'on crée dans tous les relais ce qu'on appelle des maîtres de poste. Ce sont eux qui sont responsables de l'organisation et qui s'occupent des chevaux. Ils sont nommés ces maîtres de poste évidemment par le pouvoir royal. Ils sont placés sous les ordres du grand maître des courriers de France, qui sera plus tard le surintendant des postes. Il porte un habit de drap bleu, c'est la couleur du roi bien entendu, un pantalon blanc ou bleu ou culotte blanche, et les bottes suivant le costume, et un chapeau français avec torsade d'or et d'argent. Et après 20 ans de service, ils ont sur l'épaule un insigne aux armes royales. Ils sont payés 1 franc du quart de lieu pour chaque cheval qu'ils bailleront, y compris celui de la guide qui conduira le courrier. Savoir que certains relais ont des écuries très importantes et qu'on est capable, évidemment, de relayer certains équipages de 6 chevaux. Quand vous voyagez, vous êtes un seigneur qui voyage avec certains moyens, vous voyagez avec une berline à 6 chevaux et généralement 2 berlines d'accompagnement de 4 chevaux chacune. Si vous imaginez que environ tous les 15 km, il faut donc changer ces 10 chevaux et que vous parcourez 200 km, vous imaginez la quantité, les centaines de chevaux qui vont être réquisitionnés. Ces relais, dans un premier temps, ils n'étaient destinés encore une fois qu'aux messagers royaux. C'est le roi Louis XII qui décide, sous certaines conditions, de les mettre à la disposition du peuple. Les lettres patentes sont de 1506 et ces lettres mettent, je cite, « le service des relais à disposition des voyageurs ». Évidemment, la transmission des messages reste toujours un privilège royal. La communication, l'information, c'est le pouvoir, vous l'aurez compris. Ça reste un apanage, ça reste un privilège. Le prix de la course pour les particuliers est fixé à 15 sols tournois par poste et par cheval, ce qui quand même est une somme relativement importante. Et on verra ce prix augmenter, bien entendu. À la fin de l'Ancien Régime, ce sera à peu près le double, c'est-à-dire 30 sols tournois à peu près par poste et par cheval. Bien entendu, on conserve toujours dans les écuries des relais un certain nombre de chevaux qui sont au service exclusif du roi. Quand on dit du roi, c'est-à-dire globalement, disons, de l'administration. Et puis petit à petit, on va voir, alors ça c'est au tournant du XVIIe siècle, on va voir dans les relais de poste se développer des hôtelleries, des auberges si vous voulez. Parce que quand le soir était venu et que l'on était voyageur, on profitait de ces relais pour se reposer et pour passer la nuit. En 1584, on est sous le règne d'Henri III, il existe 241 maisons de poste où devaient se trouver toujours 2 chevaux et 2 hommes pour le service du roi, en plus bien entendu de tout le reste. Alors pour connaître ces relais de poste, il faut consulter le livre des postes où vous avez toutes les routes de France et même au-delà des frontières du royaume avec des indications de relais et de prix. Le duc de Saint-Simon en 1721 utilise la poste aux chevaux pour se rendre en Espagne. Vous savez qu'il a été nommé ambassadeur par le régent. Il explique qu'il ne faut pas lésiner sur les pourboires au postillon et jouir souvent de protection pour obtenir une place. Et oui, car parfois les chevaux sont rares et donc ils se font de plus en plus chers. La mise en place de ces relais va permettre, disons-le, au gouvernement de couvrir le territoire, de surveiller ce territoire. C'est une véritable politique de l'information qui se met en place. Le roi, quand on dit le roi, disons l'administration, se tenant au courant de tout ce qui se passe et notamment des mouvements de voyageurs, puisque vous avez les registres dans les relais de poste. C'est-à-dire que la police royale peut savoir à tout moment qui a voyagé, qui est passé, avec combien de personnel, etc. On va voir peu à peu se développer des véhicules de plus en plus individuels et en 1665, c'est l'invention de ce qu'on appelle la chaise de poste. La chaise de poste, c'est une sorte de fauteuil à 2 roues qui est porté sur un châssis auquel on attelle des chevaux. À partir de là, c'est presque le système moderne de communication qui est en place.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui, à l'occasion de la grande fête du timbre qui se tient tout au long de ce week-end et qui est célébrée dans 89 villes de France, Franck Ferrand, vous nous rappelez l'histoire et le développement de la poste.
Je vous ai parlé des chaises de poste. Il y a évidemment un grand nombre de véhicules, si je puis dire. Vous aurez des voitures qu'on appelle les dormeuses, qui, comme leur nom l'indique, permettent à certains voyageurs de faire un somme. Les birouches, les diligences, les berlines à 4 portières, évidemment, qui sont les plus gros de ces véhicules. Les gondoles qui sont des véhicules à places successives, tout en longueur, si je puis dire. En 1760 apparaissent les diligences sous leur forme définitive. Ça, c'est une grande voiture qui peut transporter 16 voyageurs. Voiture compartimentée. Vous avez 3 places à l'avant qui ont vue sur l'attelage et la route. 2 banquettes de 3 places chacune au milieu qui sont les places des voyageurs qui ont le plus de moyens. Et puis à l'arrière, 2 places qui généralement sont en plein vent, quasiment sur le toit. Ce sont des places les moins chères, bien entendu. Alors tout ça était très organisé, il fallait généralement réserver sa place à bord des diligences, un peu comme nous le faisons aujourd'hui pour prendre le train. Et puis, bien entendu, ces diligences emportaient un minimum de bagages et puis toujours des ballots de courrier, c'est-à-dire qu'elles assuraient un service de poste. Alors, ce service de poste, il a été mis en place au XVIIe siècle, avec un certain nombre de levées qui avaient lieu à des jours fixes. Donc, on regardait tout ça dans l'almanach pour savoir quel était, selon la ville où vous habitiez, quels étaient les jours de levée et les jours de distribution du courrier. Ce système de poste, pour les particuliers, va révolutionner complètement la société. Dites-vous qu'à partir du XVIIe siècle, il est permis de s'écrire, pensez aux lettres de Madame de Sévigné à sa fille, bien entendu, mais ça, ce sont les plus célèbres, mais d'une façon générale, ce courrier va devenir, va faire partie de la vie quotidienne des gens, et l'on va passer au XVIIIe siècle, une partie non négligeable de la journée, généralement c'est la matinée, à rédiger une correspondance, et cette correspondance, elle est acheminée à vos différents destinataires, par des messagers bien entendu, mais aussi par ce service des postes qui devient un service public tout à fait extraordinaire. Un voyage en poste à travers la France ne peut être qu'ennuyeux, nous dit Erzenmars en 1846. On attelle en un clin d'œil, les chevaux ne manquent jamais, la chaussée est unie comme une nappe, le postillon galope d'un relais à l'autre. Autrement dit, ça n'est même plus du voyage, puisque tout ça se fait d'une manière quasiment automatique, avec beaucoup de simplicité. Il faut savoir du reste que les chevaux ont tendance à courir moins vite en France que dans certains pays d'Europe. Alors là, je ne vais pas entrer dans ce débat, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des débats avec les auditeurs sur ce sujet, mais ça tenait aux allures que l'on faisait, quand l'on faisait respecter aux chevaux à l'intérieur du royaume, qui donnait à la course générale une allure beaucoup plus régulière, mais effectivement un train un peu plus lent. Peu à peu, on va encore augmenter, améliorer tout ça. Bien entendu, le ministre des Finances de Charles X, le comte de Chabrol, en 1830, dit « Un trajet de 100 lieues qui ne pouvait autrefois être parcouru que dans le délai de 60 heures se franchit aujourd'hui en moins de 40. 86 heures suffisaient à peine pour courir les 77 postes qui nous séparent de Bordeaux. 45 heures nous y conduisent aujourd'hui. » 45 heures pour aller à Bordeaux, vous imaginez, c'est quand même extraordinaire. Vous êtes à Bordeaux, on va dire concrètement, en 2 jours et demi. Les petites voitures mettent 2 ou 3 fois moins de temps que les grosses. Vous imaginez là encore la raison de leur grand succès. Le problème de ces petites voitures, c'est qu'elles créent des encombrements et surtout qu'elle facilite les accidents. Il y a énormément d'accidents qui sont liés à ces petites voitures extrêmement rapides, notamment sous le règne de Louis XV. Vous savez ce que disait Louis XV à propos de ces petites voitures légères? Il disait « Ah, si j'étais monsieur de Sartine, je les interdirais ». Monsieur de Sartine n'était après tout que son ministre, a-t-on envie de lui répondre. Alors, le problème de cette poste aux chevaux, c'est que peu à peu, on va voir manquer les chevaux. Les postes, les relais vont manquer d'animaux. On n'arrive plus à fournir à la demande. Et ce qui va résoudre le problème, ça n'est pas une augmentation du nombre de chevaux. Ce qui va résoudre le problème, c'est l'arrivée du chemin de fer qui, d'un seul coup, va rendre tout cela obsolète. Joël Amalfitano, bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons, grâce à vous, revivre non seulement l'histoire de la poste, mais l'aventure du timbre.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Après l'histoire de la poste que vous venez de nous raconter, Franck Ferrand, il y a quelques minutes, on va s'intéresser au timbre puisque ce week-end se tient la fête du timbre 2015 dans 89 villes de France. Et vous recevez aujourd'hui Joël Amalfitano qui travaille au sein de Filaposte.
Alors j'ai laissé nos auditeurs, Joël Amalfitano, au milieu du 19e siècle, au moment où le chemin de fer est en train peu à peu de rendre obsolète tout le système des relais de poste qui avait joué ce rôle tellement important dans les communications depuis plus de 3 siècles. C'est comme par hasard, mais je pense que ça n'est pas tout à fait un hasard, le moment où apparaît le timbre.
Alors effectivement, les années 1838-39, c'est une période un petit peu de recherche aussi, bon, on peut dire de profit, soyons francs. Et notamment en Belgique, en Angleterre, on fait quelques recherches. Et Sir Roland Deal se disait que le système du port payé, du port dû, pardon, était un peu compliqué pour tout le monde, puisque c'était le destinataire qui payait le courrier. Donc vous imaginez toutes les pertes, puisqu'à un moment...
d'un point de vue concret, ça se passait comment? C'est-à-dire qu'au moment où vous alliez chercher votre courrier, vous acquittiez la charge?
On n'acquittait pas la charge à ce moment-là, justement. Le courrier était porté, mm-hmm. et donc c'est le destinataire qui recevait la lettre et qui disait « oui, je la prends, non, je ne la prends pas ». Et on raconte une anecdote assez amusante, c'est que Sir Roland Deal, à un moment, voit une jeune servante dans une auberge qui va refuser un courrier Elle veut pas payer ce courrier. Il lui demande pourquoi. Elle lui dit, mais j'ai pas besoin de payer. J'ai vu un signe sur le courrier et je sais que mon fiancé sera présent la semaine prochaine. Et donc, elle lui dit, donc je ne paye pas. Et là, il se dit, bon sang de bois, il y a quand même un problème. Donc,
on essayait de détourner la taxe.
Bien
en fait.
Entendu, il faut faire payer au démarrage. Donc, on est passé du pordu au port payé. Et c'est dorénavant, c'est l'expéditeur, à partir de 1840, qui va payer le courrier. C'est la grande révolution.
Ça paraît beaucoup plus logique, entre nous soit dit.
C'est beaucoup plus logique, sauf qu'il faut se rappeler que la poste, comme vous l'avez si bien évoqué tout à l'heure, était une poste plutôt liée à des privilégiés. Et quand la poste est apparue, après elle s'est ouverte avec la poste aux lettres à d'autres types de clientèle. Mais à partir de 1840, tout un chacun va pouvoir expédier du courrier. 1840, c'est l'Angleterre, et la France attendra jusqu'en 1849. Auparavant, il y aura eu la Suisse, les USA, un petit peu la Belgique avant nous. Et en 1849, c'est la France qui, avec son CRS 20 centimes noir, va permettre à tous les Français d'expédier du courrier.
Dans l'esprit de qui est né le timbre? Est-ce qu'on sait quel est l'inventeur de cette révolution?
On a l'habitude de dire que c'est Sir Roland Hill en Angleterre, mais bien sûr qu'il a eu des prédécesseurs. Il y a d'autres personnes qui ont cherché comment travailler dans ce domaine et comment gagner un peu plus d'argent. En France, on a l'habitude, et je pense que c'est certain, c'est Étienne Arago qui était au sein des postes françaises, administrateur général, qui a décidé qu'on allait passer au port payé, non plus au port dû.
On est quelques années, on est 9 ans après l'invention de Sir Roland Hill, donc on peut dire quand même qu'on a un peu copié ça sur le système britannique, là, objectivement.
Tout à fait. Je crois que plutôt que de parler de copier, je dirais d'inspiration, parce que on va voir que jusqu'à une époque récente, tout ce qui se passe dans le monde entier, au niveau notamment de l'Union postale universelle, on peut dire que c'est pas de la copie, c'est une façon de rentabiliser, de gérer au mieux et au plus près des clients et du courrier.
Alors justement, qu'est-ce que cette Union postale universelle?
Alors l'Union postale universelle, en 1872, a rassemblé tous les pays qui pouvaient émettre des timbres ou s'occuper, j'allais dire, de différentes réglementations postales, puisqu'il y a eu les mandats, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'Union postale universelle, et le courrier et le timbre. Et il y a actuellement 192 pays qui peuvent émettre des timbres. Vous savez qu'un pays, un État, a le droit de battre monnaie, il a le droit d'émettre des timbres, et c'est pour ça que l'État français peut émettre des timbres et a donné ce monopole à la Poste.
Alors nous verrons tout à l'heure les évolutions les plus récentes, puisque maintenant on a des timbres qui sont quasiment à la demande, à la carte. Ça, c'est quand même une révolution aussi dans l'histoire de la Poste. Mais pour l'instant, restons au XIXe siècle. Quels sont les grands timbres emblématiques? Si je commence aujourd'hui une collection de timbres, et si je veux évidemment posséder quelques-uns des timbres originaux qui sont à l'origine même de ce système, vers quoi est-ce que je vais m'orienter?
Alors je dirais, Franck, que si vous voulez démarrer une collection aujourd'hui, ça va peut-être être un peu plus compliqué, tout dépend de l'état de vos finances. On sait que le timbre le plus cher du monde, le One Cent Magenta, il vaut 9,5 millions de dollars.
Oh mon Dieu, oui.
Il a été vendu chez Sotheby il y a quelques années de ça, il a déjà été revendu 4 fois. Le timbre français, on va dire qu'il est dans une moyenne, 1 franc/million, il vaut 100 000 euros. Par contre, si on veut un bloc de 4 avec une fameuse tête beige, puisqu'à l'époque, on avait les timbres qui étaient imprimés en typographie. Et donc, comme on travaillait sur une planche et à l'envers, on voyait pas bien. Donc, on a fait une fameuse tête beige et celle-ci, elle vaut 1,5 million d'euros.
C'est-à-dire que plus le timbre est anormal, si je puis dire, plus il est par nature exceptionnel et donc plus il coûte cher.
Ça, pas forcément le mot anormal. Sa rareté vient aussi du fait qu'il y a eu que quelques émissions. Voilà. C'est le cas du One Cent Magenta. On en connaît très peu dans le monde. Il y a aussi des timbres qui ont été détruits.
Magenta, c'est la couleur. Hein.
Oui. Oui. Il y a aussi des timbres qui ont été détruits. Les négociants en timbres, qui sont 230 en France actuellement, font des stocks de timbres. Ils parient sur l'avenir d'un timbre. Et quelquefois, ils n'en ont pas assez acheté ou ils n'en ont pas assez stocké. Comme c'est la loi de l'offre et de la demande sur le marché, eh bien, vous allez pouvoir trouver des timbres qui sont anciens, qui ne valent pas grand-chose. Et puis des timbres plus récents qui vont coûter plus cher.
Alors pour nous cantonner dans un premier temps à la France, il n'y a pas de timbre de la monarchie de Juillet, puisque le tout premier timbre, il date de 1849. On est donc sous la Deuxième République, là.
Tout à fait. À partir de 1849, on a vu commencer d'ailleurs les collections de timbres. On va dire qu'à partir des années 1860, on voit les premiers catalogues de timbres. On voit les premiers collectionneurs qui commencent à s'appeler philatélistes. Hein. Et de là, ça ne s'est jamais interrompu. Il y a plus de 2,5 millions de personnes en France qui se disent intéressées par le timbre. La Poste connaît à peu près 400 000 clients en propre, et on a une fédération de collectionneurs, la Fédération française des associations philatéliques, qui a 30 000 membres et 650 clubs. Donc c'est vrai que c'est une affaire encore très importante, avec une évolution vers les femmes. Les collectionneurs ont toujours été des hommes, alors je ne voudrais pas dire en face de
vous,
Franck.
C'est vrai que les philatélistes, c'était une occupation très masculine, hein, il faut le
et
dire.
Et c'est ce besoin d'amasser, d'organiser, d'avoir le pouvoir. Voilà, je suis désolée, c'est comme ça, je ne vais pas faire un peu de psychologie aujourd'hui. Mais c'est vrai que donc, les femmes sont apparues un petit peu plus tard sur ce marché, j'allais dire à partir des années 75-80, parce qu'elles ont fait un relais patrimonial. Elles ont repris les collections de timbres de leur père, grand-père ou beau-père. Et puis, elles ont vu la beauté dans le timbre et elles sont plus allées vers le côté artistique du timbre que vers le côté, j'allais dire, un peu vénal. Alors, contrairement à ce qu'on dit, Franck.
Tout à l'heure, on va venir, bien entendu, aux timbres spécifiques, à tous les beaux timbres, comme on dit. Mais dans un premier temps, les timbres sont à une effigie quasi unique. Qu'est-ce qu'on voit sur les premiers timbres, ceux du 19e siècle?
Alors, j'allais dire, le premier timbre, c'est la Cérès. Mm-hmm. Moi, je l'ai toujours trouvée très belle, cette Cérès. D'abord,
symbole de prospérité.
C'est la déesse des moissons, mm-hmm. C'est le symbole de prospérité. Il faut se rappeler que 1849, on est dans une France rurale. On va dire que jusqu'en 1940, la France a été très rurale. Si on se regarde d'ailleurs à l'heure actuelle, par rapport à l'Allemagne ou à d'autres pays européens, on est encore très rural. Mais on va dire que cette période-là, c'est rural. Donc on a sur nos timbres le reflet de notre société, puisque je le dis souvent, le timbre n'est que le reflet de notre société, qu'il soit politique, culturel ou artistique.
C'est un petit miroir dans le coin des lettres, si l'on peut dire.
C'est ce petit miroir. Et ce petit miroir, un petit clin d'œil amusant, sur le timbre de 1840, sur le timbre anglais, One Penny Black, on y voit la tête de la reine Victoria quand elle a 15 ans. Et c'est le seul timbre au monde où il n'y a pas le nom du pays. Parce que il y a la tête de la reine Victoria. Et c'est resté dans le monde entier. Pas besoin. Nous sommes les premiers, messieurs les Anglais, et donc nous avons la reine Victoria. Par contre, sur les timbres français, on a trouvé des représentations de, alors on va dire de l'État français, entre guillemets, puisqu'ils ont évolué. Donc on a 1849, ensuite on a l'empereur Napoléon.
Oui, après on va
passer
Napoléon
III, bien sûr. Après on va passer à la Marianne. Au passage, 1862, c'est le premier timbre avec des dents. Dentelés. Avant, on avait des timbres qu'on découpait au ciseau.
Ah oui.
Et c'est vraiment en 1862 qu'on a inventé les premiers timbres dentelés et qu'on a vu apparaître les timbres avec ces découpages faciles.
Pour le collectionneur, il faut que le timbre, c'est un peu comme les mannequins, il faut qu'il ait toutes ses dents, hein, si je puis dire.
Il faut qu'il ait toutes ses dents, donc qu'il soit en pleine forme. Mais il est évident que si on a un timbre très rare avec une petite dent abîmée, je le prends quand même.
Bon, hein, d'accord.
Voilà.
Alors, on va venir justement à ce qu'on appelle les beaux timbres.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
L'histoire de la poste, c'est aussi l'histoire du timbre. Franck Ferrand, jusqu'à 15h, vous recevez Joël Amalfitano qui travaille au sein de Philaposte.
Alors, pour l'instant, on a parlé de timbres, j'ai envie de dire, très classiques, avec la Cérès, avec l'Empereur, avec la Marianne. À partir de quand apparaissent les timbres, je dirais, artistiques?
Alors, je ferai une légère digression. On va dire qu'à partir des années 20, des années 30, on commence à sortir du timbre qui est un visuel de l'État. On commence à avoir des timbres qui sont destinés, par exemple, aux orphelins. Mmh. Donc, on va avoir des images avec des femmes, des enfants.
On en profite pour faire un peu de propagande, si on peut dire.
De la propagande et puis des surtaxes pour récupérer de l'argent.
Voilà.
On a les timbres qui émanent de la caisse d'amortissement. C'est une façon, après la guerre de 14, de renflouer l'État français. Et donc, on a des visuels qui apparaissent. On va dire qu'après, dans les années 30, on commence à voir, en 1929, on a le pont du Gard. C'est le premier, on va dire, timbre d'une série touristique. On commence à voir des jolies choses. On commence à voir la France sur les timbres. Et puis, en 1960, on a Malraux. Et il se dit, il faut populariser l'art. Et en 1961, on démarre ce que j'appelle moi le musée imaginaire à la Poste. On démarre la série dite artistique. Et avec Braque, Cézanne, Matisse, Lafrenée, on a les quatre premiers timbres qui vont marquer ces timbres artistiques. On en est à 260 actuellement.
C'est-à-dire que là, l'État confie la réalisation de timbres à des artistes. Ils sont de grande taille, ces timbres?
Alors, ils sont, j'allais dire, à la louche, pour donner une idée à vos auditeurs. Ils représentent quatre petits timbres de la série,
voilà,
Marianne,
ça,
à peu près en taille. Ils sont très grands, donc très beaux. Il est facile de s'exprimer dessus. Mais on va dire que à partir des années 60, on fait appel déjà à des peintres existants. On prend leurs tableaux. Mais à partir des années 70, la Poste, à laquelle l'État a confié le monopole de l'émission des timbres, va faire appel, par exemple, à Joan Miró. On a la première création de timbres par un artiste contemporain. Ça sera suivi de Dali, Alechinsky, Agam et autres timbres.
Alors, il y a des timbres gravés dans une seule couleur et puis il y a les timbres en polychromie.
Alors, les premiers timbres dont on a parlé tout à l'heure, 1849 autres, ils sont en typographie. Donc, on va jouer sur une seule teinte à peu près. On a du vert, du bleu, du rouge, etc. À partir de la taille douce, on arrive à des timbres beaucoup plus colorés. On a le choix actuellement entre, on va dire, 4 à 5 modes d'impression à l'imprimerie. La typographie a été abandonnée dans les années 75. On l'utilise encore, mais ponctuellement.
Le numérique. 1975.
La typographie existait. On fait encore de la surcharge, quelques petites choses sur les timbres. Mais on va dire qu'on a du numérique, ça tout le monde voit à peu près ce que c'est. On a de l'offset qui nous permet d'avoir des timbres avec des nuances très subtiles. De l'héliogravure, c'est des timbres très brillants que vous voyez. Le chocolat, beaucoup ont vu ce fameux timbre, ce bloc sur le chocolat. Ça donne une brillance exceptionnelle. Et puis on a la taille douce. J'allais dire là, presque Franck, c'est un peu sensuel. Quand vous touchez un timbre en taille douce, vous sentez vraiment les traits de la taille douce puisque c'est un graveur. On en a deux qui sont embauchés à l'imprimerie de La Poste, Elsa Catelin et Pierre Barra, qui ont 25 ans et 30 ans. Et eux, ils gravent donc à l'envers, dans une binoculaire, sur un petit poinçon qui fait 5 cm de côté. Ils gravent des traits qui ont la taille d'un cheveu. Et ensuite, à l'endroit, à l'envers, on arrive à un timbre en taille douce qui a cette spécificité et ces traits qui donnent une finesse au dessin.
Alors, on a bien sûr, parmi les motifs d'inspiration, tous les grands sites, les sites du patrimoine notamment, les cathédrales, les églises, les châteaux, bien entendu, tout ce qui fait la beauté du pays, bien sûr, et puis un certain nombre de figures, de personnalités. On met en avant de grands écrivains, de grands gouvernants, des ministres, des gens morts généralement.
Oui, parce que le timbre, je vous disais qu'il était universel, mais en France, il est le reflet de notre patrimoine, de notre culture et de notre talent. Et effectivement, en France, on a décidé depuis le début que seuls les personnages disparus avaient le droit de figurer sur des timbres. Pourquoi ? Parce qu'à la limite, on trouve qu'il y a autour de nous des gens qui sont très bien. Vous et moi, on les trouve très bien. Mais malheureusement, il ne faut pas...
C'est un petit peu comme le nom des rues, ça, c'est compliqué.
Oui, il faut que le temps soit passé pour qu'il n'y ait plus d'animosité, pour qu'on dise, tiens, tel finalement était pas mal, ou on oublie certaines choses de l'histoire. Et donc, tous nos personnages sont forcément disparus, sauf quelques exceptions, et je vais le dire pour vos auditeurs. Oui. En l'an 2000, pour passer le siècle, on a décidé d'interroger les Français. Plus de 100 000 Français ont voté, et ils ont désigné leurs sportifs, leurs exploits sportifs du siècle passé pour passer au 21e. Et là, Jean-Claude Killy, Carl Lewis, Jean-Claude Killy pour ses médailles d'or au ski, bien sûr, et Carl Lewis, voilà, ils ont été désignés comme les meilleurs exploits sportifs. Donc Jean-Claude Killy, Carl Lewis ont donné leur accord, ils sont vivants sur des timbres.
Ah, ça, c'est formidable.
On a également, j'aime bien, la Cinémathèque française, c'est un joli bloc qui est sorti 20 ans en arrière. Et là, on a Simone Signoret et l'enfant sauvage du film François Truffaut, ou Simone Signoret dans le film Casque d'or, qui sont sur des images de films. Ils étaient donc encore vivants. Mais sinon, ce sont effectivement des personnages disparus.
Alors, je vous avoue que je ne suis pas collectionneur de timbres, mais en revanche, j'ai toujours mis ce qu'on appelle des beaux timbres sur moi, sur mes lettres. J'aime pas mettre la Marianne toute simple. Bon. Et depuis quelques années, on est dans une autre thématique quand même. C'est-à-dire qu'on est sorti du classicisme et des châteaux pour entrer dans toutes sortes de domaines, y compris la vie quotidienne.
On a toutes sortes de domaines, mais depuis fort longtemps, parce que la vie quotidienne, à partir des années 30, on va commencer à s'intéresser à la société. On va commencer à être civique sur les timbres. Par exemple, on va vous demander de faire du don du sang. On va vous dire boire ou conduire. On va vous demander de mettre votre ceinture par la sécurité routière. On va vous demander de faire attention à l'eau. Dans les années 71, on voit les premiers timbres sur l'eau. On vous demande d'aller voter. On parle de la liberté de la presse. On vous indique le recensement de la population.
Mais qui décide de ça ? Quel est le processus de choix d'un timbre ou d'une série ? Parce que généralement, ce sont des séries de timbres.
On a des séries, puis on a quelques individualités. Il y a environ 1200 demandes d'émission de timbre par an. Je disais, vous, moi, nous pouvons faire des demandes d'émission de timbre. Bien sûr, il faut qu'elles soient bien importantes et il faut qu'elles représentent une partie de notre patrimoine. Alors, vous faites une demande d'émission de timbre à Emmanuel Macron, notre ministre, et ensuite, La Poste ayant été déléguée par l'État français pour réaliser ces timbres, on reçoit les 1200 demandes d'émission, on fait un pré-tri, les demandes farfelues, celles qui n'ont rien à voir, et puis on garde celles qui correspondent le plus au patrimoine français, à la culture, à notre histoire. Et on arrive à peu près à un choix de 50 à 60 émissions par an grâce à une commission des programmes philatéliques qui se réunit deux fois par an avec des membres du ministère de la Culture, des artistes, des collectionneurs, des postiers, et ils décident dans leur âme et conscience deux fois par an ce qui a lieu d'être sur les timbres parce que c'est patrimonial, parce que c'est culturel, etc.
Alors il y a maintenant la possibilité même de faire des timbres à la carte, de choisir son sujet, voire même son slogan, si je puis dire, sur un timbre.
Je dirais même mieux, c'est ce qu'on appelle le timbre personnalisé.
C'est
on
ça,
a dit tout à l'heure qu'il était réservé aux personnages disparus, que c'était le reflet de l'État français, d'où la Marianne dans la série courante. Et bien entendu, on ne pouvait pas laisser à tout le monde le droit de faire n'importe quoi. Dans les années 98-99, certains pays comme l'Australie, on peut le dire, ou la Chine, ont lancé les timbres personnalisés. La France a mûri ce process, comme on le disait tout à l'heure, à partir du timbre anglais en 1840, et en l'an 2000, on a sorti la proposition du timbre personnalisé. Alors, Vous n'aviez pas encore le droit d'être sur le timbre lui-même, mais sur une vignette à côté de ce timbre. Et ça permettait d'y mettre son visage, la photo d'un bébé, d'une maison, d'un animal, à condition bien sûr que ça n'ait rien d'outrageant, de contraire à la loi. Et en 2007, on est allé encore beaucoup plus loin. Oui. Là, maintenant, on est dans le timbre, on est au cœur du timbre. Et tout un chacun peut, en passant sur notre site internet, mon timbre à moi, ou en, lors de séances en direct, faire son timbre.
Vous mettez l'imprimatur de l'État français avec écrit La Poste, etc., la valeur faciale du timbre, sur un timbre qui peut être une photo prise, un selfie par exemple.
Tout à fait. Les mentions légales qui font que ce timbre est valable pour l'affranchissement, j'insiste, est analysé. Votre demande arrive à un endroit où on l'examine. On a vu, on va le dire franchement, des photos de président de la République arriver chez nous. Donc on demande bien sûr à la personne si elle a les copyrights, si elle a les droits de reproduction.
on doit même voir des photos, je ne veux pas entrer dans, hein,
dans des détails.
On imagine.
Ceci dit, on a tous, à un moment, c'est subjectif. Voilà. Mais par contre, il y a des choses qui ne peuvent pas être subjectives. D'accord. Quand on voit une croix gammée, quand on voit certaines scènes un peu délicates, effectivement, elles sont refusées. Donc on a quand même, parce que c'est le monopole de l'État français, un droit de regard très approfondi sur ce type de timbre.
Cette fête du timbre, donc, qui commence demain, enfin tout ce week-end, là, dans 89 villes de France, elle existe depuis quand ?
Eh bien, en 1937, vous savez qu'il faut un temps de réflexion aux gens qui s'occupent du timbre. On se disait, ça serait bien d'unir un peu tous les Français, tous les collectionneurs. Et en 1938, la fête du timbre a vu le jour. Et c'est la Fédération française des associations philatéliques, dont je salue le président Claude Desarméniens aujourd'hui, qui a mis en place cette fête dans entre 100 et 80 villes selon les années. Là, on est à 89 villes. Et vous imaginez qu'il y a les 30 000 bénévoles qui, dans la France entière, se dévouent avec la Poste, puisque nous sommes partenaires, pour organiser une véritable fête. Moi, je me souviens de la fête autour de Harry Potter, quand J.K. Rowling a lancé son livre. On a fait un timbre l'année suivante sur Harry Potter. Il y a eu des files d'attente dans toute la France. Là, on va travailler sur le tango. On est sur une thématique de danse, et puis avec un autre ballet. Et c'est vrai que c'est quand même une belle aventure que cette fête du timbre avec les collectionneurs.
Eh bien, bon tango et bonne fête à tous les philatélistes pour cette fête du timbre qui aura lieu donc demain le 10 et dimanche le 11 dans 89 villes de France. Merci beaucoup, Joël Amalfitano.
Et nous n'allons pas tout à fait quitter le monde du timbre, ou en tout cas celui de la Poste, puisque dans un instant, Franck, vous répondrez à une question d'auditrice sur les retours aux origines du carnet de chèques.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, après l'histoire de la Poste et du timbre, il y a un instant avec votre invité, Franck, vous répondez à la question d'Amandine sur le site europe1.fr qui voudra en savoir plus sur les origines du carnet de chèques.
On n'est pas loin là de l'histoire postale, en tout cas de la banque postale. C'est un des avatars récents de la Poste. Alors, pendant très longtemps, ce qu'on appelle aujourd'hui le chèque, c'était la lettre de change. Ça existait depuis vraiment très longtemps. Au 4e siècle avant notre ère, l'orateur athénien Isocrate parle dans le Trapézitique d'un instrument de paiement particulier. Selon ses écrits, cet outil permettait de transporter d'importantes sommes d'argent en toute sécurité puisque ce n'était qu'un système d'écriture. Les lettres de change peuvent être considérées donc comme les ancêtres du chèque. Elles vont se développer particulièrement au Moyen-Âge. Alors, on a à Bagdad, dans la Bagdad du 9-10e siècle, un système primitif de ces lettres de change qui va être développé par l'Empire Abbaside. Et on parle là-bas de sac, ça s'écrit S-A-2-K. C'est ce terme arabe qui va donner le terme anglais « chèque », d'où vient notre chèque actuel. Alors, quand est né le chèque moderne ? En 1742 précisément. Et de même que le timbre, nous l'avons vu tout à l'heure, le chèque est une création britannique, puisque c'est la Banque d'Angleterre qui va créer les premiers chèques modernes. La banque avait le monopole sur les billets, les banquiers ont inventé une méthode alternative pour faire circuler la monnaie. Le moins qu'on puisse dire est qu'on avait eu quand même un certain nombre de mauvaises expériences avec ces systèmes de monnaie fiduciaire, et il va falloir attendre le tournant du 19e siècle pour voir se développer le chèque. En 1826, en France, la Banque de France émet les premiers chèques, on les appelle les mandats blancs, qui permettent des retraits de fonds déposés directement à la banque. Il faudra attendre le Second Empire, février 1865, pour que le chèque adopte la forme que nous connaissons aujourd'hui. Exactement. Alors là, pour le coup, le chèque de 1865, c'est quasiment le chèque actuel. Une utilisation population, il faut le dire, qui reste tout à fait marginale, qui n'est utilisée que dans le cadre de certaines transactions bien particulières, et ce jusqu'à une période très récente, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1931 qu'on a, par une convention qui a été signée à Genève, uniformiser la législation sur les chèques à l'échelle mondiale. Et c'est seulement dans les années 1950, vous imaginez, que le chèque est devenu un instrument de paiement tout à fait banal. Alors aujourd'hui, il est détrôné bien sûr par la carte bancaire, mais on continue à faire des chèques comme en 1865. Et voici Marion Ruggieri. Bonjour Marion.